Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer pour ce bon moment que nous passons ensemble en famille. Un jour, nous allons nous retrouver ensemble au ciel, tous et chacun qui sont tes enfants, et nous allons te célébrer. Ce sera la plus belle louange qu'on aura jamais connue. Nous avons hâte, Seigneur, de se retrouver près de toi. Mais en ce moment, Seigneur, nous sommes bénis d'entendre nos frères et sœurs chanter, préparer nos cœurs à ton message, et nous voulons te louer, Seigneur, et te bénir. Merci pour tous ceux qui te servent ici à l'Église. On pense à toute l'équipe d'École du dimanche. On pense à la pouponnière, les parents qui aident, donnent un coup de main, les nombreuses heures que des frères ou des sœurs donnent pour s'investir dans ton royaume. Merci, Seigneur, pour tout ce qui se passe ici à l'Église de l'espoir. Tu es notre espoir, comme le chant vient de le dire, Seigneur. Et nous voulons te remercier de ce qu'un jour tu t'es manifesté dans notre vie. Tu t'es révélé à nous, Seigneur. On te prie que tu puisses nous bénir ensemble ce matin, toucher nos cœurs, nous édifier, que l'on reparte encore plus encouragé, édifié et avec une foi encore plus déterminée à te servir. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un livre qui vient de sortir il y a quelques mois, qui s'intitule « Parenting Beyond Belief »,« Éduquer les enfants sans la foi ». C'est des athées qui ont décidé de se mettre ensemble. Ils ont décidé, ils avaient plusieurs, eux autres disent, il y a un paquet de plusieurs livres pour des gens religieux qui veulent élever les enfants dans la foi. Mais ils disent, enfin, on va avoir un livre pour nous, parents, qui sommes des athées. Et on va pouvoir éduquer nos enfants et sans la foi, sans la religion. D'ailleurs, ce livre fait un peu la tournée. Il y a quelques millions de personnes aux États-Unis qui disent ne pas avoir la foi et se posaient quand même des questions sur l'au-delà. Comment t'expliques à un enfant la question de l'au-delà, d'une personne qui est décédée? Qu'est-ce que tu dis si t'es athée? Comment t'expliques ça à tes enfants? C'est grande question de la vie et de la mort. Alors, en ce moment, l'auteur est en train de faire une tournée aux États-Unis pour faire la promotion de son livre. Et non seulement ça, elle apporte un guide qu'elle donne à ceux qui viennent à la conférence pour les accompagner et leur donner des trucs et des conseils comment élever leurs enfants sans la foi. Juste pour vous donner un exemple, un échantillon d'un chapitre où il donne des conseils sur la mort, comment éduquer ton enfant. Et expliquer à ton enfant qui vient de perdre quelqu'un de très cher, comme grand-papa qui vient de mourir, admettons. Et voici les conseils qu'on donne. Voici ce qu'on recommande dans le livre de dire à son enfant qui vient de perdre grand-papa. Non, chérie, grand-papa ne viendra pas à Noël. Il est mort et il est mort pour toujours. Imaginez. C'est ça qu'on conseille, les athées conseillent aux parents. De faire accepter leurs enfants, les éduquer, que grand-papa viendra pas à Noël, il reviendra plus, il est mort pour toujours. Ça donne pas beaucoup d'espoir, hein, franchement. Imaginez vous retrouver dans un salon funéraire, et moi, je trouve que c'est tellement différent lorsqu'on perd quelqu'un qui avait la foi. Une personne qui avait Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ça change tout, même au salon funéraire. Il reste, malgré la douleur puis la tristesse qui est là, d'avoir perdu quelqu'un que l'on aime, reste, il y a quand même une espérance qui est là. Il y a quand même quelque chose qui est là, il y a des réponses. On sait que où ils sont et que si on a la foi, on va les retrouver. Moi, ma mère s'est convertie à l'âge de 67 ans et c'était tellement beau de la voir donner son témoignage en avant de se faire baptiser. Elle avait des petites lunettes là, pour la protéger ses yeux lorsqu'elle est rentrée dans l'eau, dans son baptême. Et de savoir, ma mère est décédée il y a plusieurs années, et de savoir qu'un jour je vais la revoir, ça change vraiment tout, hein? L'espoir est là et ça donne tout le portrait tout à fait différent. Et je le vois moi-même lorsque je conseille ou je console, tant bien que mal, quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un de très cher. Ça fait vraiment une différence lorsque la personne peut s'appuyer sur les Écritures et savoir qu'il y a de quoi qui nous attend. Et que Dieu accueille ceux qui sont dans le Seigneur, dans sa présence. Mais ceux qui sont ici, nous avons la foi, nous autres. On n'est pas des athées. Il n'y a pas beaucoup d'athées qui se promènent dans notre église. On va le dire tout de suite. Il n'y a pas beaucoup d'athées assis et qui fréquentent notre église. On aimerait ça qu'ils viennent et qu'ils entendent la parole de Dieu. Certainement, la porte est grande ouverte. Mais honnêtement, ceux qui sont ici, c'est parce que si vous êtes ici, c'est parce qu'à quelque part, vous avez la foi. Amen? Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, il faut faire attention, ça a l'air, parce qu'on peut pas appeler les athées maintenant. Ils ont un nouveau mot pour se décrire, je sais pas si vous savez ça. Oui, ils s'appellent maintenant, ils veulent se faire appeler les bright. Bright pour illuminer, les illuminer. Eh bien, pourtant, dans les Écritures, on voit que ceux que la lumière se trouve auprès de Jésus-Christ. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'athées dans nos églises et qui feront notre église. Nous, nous avons la foi et nous avons la foi en Jésus-Christ. Mais si on a la foi, quelqu'un qui a la foi, là, comme vous, dites-moi ça, là, est-ce que ça arrive, quelqu'un qui a la foi, est-ce que ça arrive que par moment, vous allez douter? Il y a des gens qui doutent ici, des fois, ça arrive. Vous êtes honnête, c'est bon, bravo, vous êtes honnête. Ça arrive, n'est-ce pas? Ça va arriver qu'il y a des gens qui vont tomber dans le doute. On n'est pas imperméable au doute. Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un homme qui a eu des doutes. Voici un homme de Dieu très consacré. Voici une personne, d'ailleurs, qui a passé sa vie à servir le Seigneur. Mais vers la fin de sa vie, il a commencé à douter de Jésus. Ça vous c'est qui? Eh bien oui, c'est Jean-Baptiste. Hein? On va voir ce qu'il a fait avec ce doute-là et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait face à ce doute-là. L'histoire de cet homme se trouve justement dans le livre de Matthieu. Et comme vous savez, on vient de finir le 10e chapitre du livre de Matthieu. On a couvert les 10 premiers chapitres du livre de Matthieu. Et fois après fois, chapitre après chapitre, Matthieu est en train de cumuler des preuves pour démontrer, sans l'ombre d'un doute, que Jésus est bien le Messie. Il a commencé dès le premier chapitre avec la généalogie. Pour nous, c'est peut-être moins important, mais pour des Juifs, c'est très important de savoir d'où tu viens. Et il commence déjà au premier chapitre du livre de Matthieu pour démontrer que Jésus est bien le fils de David. Il vient de la lignée de David. Il fait la preuve avec sa généalogie, ensuite avec la naissance miraculeuse, les mages qui viennent de la région de Babylone de loin pour venir adorer un roi juif qui est tout à fait hors de l'ordinaire. Même les mages démontrent, est une preuve que Jésus est le Messie, est le roi d'Israël. Et il cumule des preuves par le sermon sur la montagne, ensuite par les nombreux miracles qu'il va collectionner. Matthieu, on sait que Jésus a fait plusieurs centaines de miracles. Il est rentré même dans des villes et le texte dit dans Matthieu qu'il a littéralement guéri tous les malades de certaines villes. Jésus entrait dans une ville, guérissait tous les malades dans la ville. Imaginez ça. Tout le monde en santé dans une ville. Fini. Et il a fait ça. Jésus a fait ça. Alors, des 10 premiers chapitres du livre de Matthieu sont des preuves cumulées que Jésus est le roi d'Israël, il est le Messie, il est celui tant attendu, annoncé par des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament. 10 chapitres de Matthieu. Et tout d'un coup, on entre dans le chapitre 11 du livre de Matthieu et le chapitre 12, et oups, il y a quelque chose qui arrive, on entre dans des chapitres de doute. Et là, il y a quelque chose qui change. Dans les chapitres 11 et chapitre 12, on va voir différentes réactions des gens. On entre dans deux chapitres où il y a quelque chose qui se passe, il y a un revirement tranquillement de l'attitude des gens vis-à-vis Jésus-Christ. On sait qu'ultimement, Israël va rejeter le Messie. Mais ça commence justement au chapitre 11 et chapitre 12, il va y avoir un revirement sur l'attitude à l'égard de Jésus-Christ. Maintenant, ça ne change rien au plan de Dieu. On sait que le plan de Dieu, Dieu est au contrôle. Même l'incroyance d'Israël, Dieu est souverain et il est au contrôle. Ces réactions, les réactions qu'on va voir à travers les chapitres 11 et chapitre 12, différentes réactions, ces réactions que l'on a à l'égard de Jésus, on les retrouve aujourd'hui. Ce sont les mêmes réactions que les gens vont avoir envers Jésus-Christ aujourd'hui. Par exemple, on va commencer dans les 15 premiers versets, chapitre 11, 1 à 15, et là, on entre dans une section qui démontre le doute. Chapitre 11, versets 16 à 19, on a les critiqueurs. Ensuite, les indifférents, versets 20 à 27. Quand on entre au chapitre 12 et 21, premier verset, on a ceux qui rejettent carrément le Seigneur. On a versets 22 à 23 du chapitre 12, les émerveillés. Il y a ceux-là, hein, aujourd'hui, les émerveillés. Des gens, là, tu parles du Seigneur, puis les gens ne se convertiront pas, mais ils trouvent sont tellement beaux. Ils t'entendent parler du Seigneur, puis ils disent, « Ah, mon doux, c'est tellement beau ce que tu dis là. » Et ça reste là, hein. Ma femme est allée chez le salon de coiffure cette semaine, puis elle a parlé de l'Évangile à sa coiffeuse. Ça a donné que sa mère était là, la mère de la coiffeuse était là, et ma femme a pu partager l'Évangile aux deux. Et la mère de la coiffeuse était tellement impressionnée, elle trouvait ça tellement beau. Ah, c'est tellement... Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve ça beau, ce que tu dis là. Et ça arrête là. Ça se limite à ça. Ils trouvent ça beau. Alors, il y a des émerveillés. Il y en avait dans le temps de Jésus. Il y en a encore aujourd'hui. Chapitre 12, versets 24 à 37, un peu plus loin, on a les blasphémateurs. Ça, c'est vraiment ceux qui sont très agressifs à l'endroit de Jésus-Christ. Et aussi, il faut jamais oublier les fascinés. Ceux qui sont fascinés, les curieux, là. Ça, on les a au verset 38 à 45, chapitre 12. Les fascinés, ceux qui sont curieux. On en a encore aujourd'hui, soyons honnêtes, hein. Il y a des gens qui sont curieux. Juste fascinés. Pose des questions. C'est quoi ton église? Puis tout ça. Pose des questions. Ils sont fascinés. Ils veulent apprendre. Ils veulent comprendre. L'autre jour, on était justement en train de faire des trottoirs ici, hein. Une compagnie a fait des trottoirs. J'étais dehors. Puis, justement, le camionneur, le chauffeur du camion qui est venu, une compagnie qui est venue pour ramasser les déchets et tout ça, les débris, des roches, de la mauvaise terre, là, avec des pierres et tout ça. Tout ramassait ça. Et là, il se trouvait, je suis allé le rejoindre, il était dehors, un chauffeur. Et il était juste en avant, en dessous de l'affiche, l'église de l'espoir. Fait que là, il était juste là, puis il regardait ça, là. Fait que moi, j'étais à côté, je dis, mon donné, il va se poser une question. Il regarde ça, puis il me regarde, il dit, « C'est vous autres, ça? » Je lui dis, « Oui, oui, c'est nous autres, on va à cette église-là, puis tout ça. » Il dit, « C'est quoi, cette église-là? » Puis là, j'ai commencé à exposer, puis il dit, « C'est-tu témoin de Jéhovah? C'est-tu, c'est quoi? C'est-tu catholique? » Il dit, hey, « Vous êtes catholique, vous autres, hein? Vous êtes catholique? » Fait que j'ai dit, « Non, pas catholique, puis tout ça, t'es avec les baptistes, puis... » C'est quoi la différence avec vous autres, des catholiques? Il était fasciné. Il commençait à lui présenter l'Évangile et tout ça. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? À ma grande surprise. Il avait l'air dur au début, tough, là, tu sais. Mais à un moment donné, il sortit d'abord, il dit, « Hey! » Il dit, là, il me regarde, puis il ne parlait pas. Là, tu te dis, t'attends le morceau, t'attends, il va réagir, tu sais. Là, il te regarde. Et puis là, d'un coup, il me regarde, puis il me dit, « Moi, je trouve ça pas mal fascinant. » Exactement le mot qu'il a utilisé. Les écrits de Joseph Smith. Vous connaissez Joseph Smith? Les Mormons. Imagine-toi. Out of nowhere, comme on dit. En plein milieu de nulle part. C'est ce chauffeur de camion-là qui jubile, qui aime, qui est fasciné par les écrits des Mormons. OK. Fasciné. C'est un gars fasciné. Il y en avait dans le temps de Jésus, hein. Des gens qui étaient fascinés. Sont impressionnés. Ah, c'était dit, il y a des gens même qui sont des nouvel âge. On en a aussi, hein, aujourd'hui, nouvel âge, sont fascinés par l'au-delà. Ah, puis là, ils te racontent des affaires, là, mon ami, là, c'est profond, là, tu sais. Tu comprends absolument rien, mais c'est profond. Puis là, ils t'expliquent ça, des étoiles, puis à quelque part. En tout cas, il y a de l'air, eux autres. Il y a de l'air vraiment à savoir ce qu'ils s'en vont, mais j'ai la misère à comprendre. Celle de suite, des fois, je leur donne l'occasion, je vais essayer de comprendre le raisonnement, puis ça je suis pas capable, ça rentre pas. Mais ils sont fascinés. C'est des gens qui sont fascinés. Mais il y en avait dans le temps de Jésus, on va les voir au chapitre 12. Mais à travers toutes ces réactions-là, qui sont en quelque sorte négatives, à travers les deux chapitres, chapitre 11 et chapitre 12, il y a quand même deux beaux bijoux à la fin des deux chapitres où il va y avoir une autre réaction. Et c'est celle qu'on veut, c'est celle que le Seigneur recherche, c'est la réaction de la foi. Il va y avoir ça aussi. Parce qu'à travers tout ça, à travers les doutes, à travers même ceux qui méprisent, les blasphémateurs, ceux qui critiquent, les fascinés, ceux qui méprisent et tout ça, il y a quand même ici et là le Seigneur qui va aller toucher les cœurs. C'est vrai? Et on va voir ça, chapitre 11 et 12. Alors, on va commencer par le premier. C'est le doute de Jean-Baptiste. Et on va prendre la lecture au chapitre 11, versets 1 à 3. Matthieu 11, versets 1 à 3. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, verset 2, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » On va arrêter là juste pour le moment, parce qu'on va s'arrêter sur les questions, sur la question de Jean-Baptiste. Ça, c'est une question vraiment, soyons honnêtes, là, c'est une question très étrange de Jean-Baptiste. N'oublions pas, c'est Jean-Baptiste. C'est lui le précurseur du Messie, c'est lui qui est envoyé par Dieu, rempli du Saint-Esprit dès son jeune âge, pour aller pointer du doigt Jésus et dire, « Tiens, c'est lui le Messie! » Vous en souvenez? C'est lui, ça, le même Jean-Baptiste qui a pointé et dirigé la foule vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, le voici en ce moment en train de douter. C'est le même que l'on voit dans Jean 1, verset 29, où il est dit, Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'était afin que soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, celui qui dirigeait les gens vers Jésus. Jean-Baptiste avait le ministère de préparer le terrain, préparer le chemin, et c'était annoncé dans l'Ancien Testament qu'il serait l'envoyé, le messager pour préparer le chemin du roi. C'est lui, Jean-Baptiste. Mais là, quelque temps après, voilà qu'il exerce son ministère, prêche, confronte le péché, et les jeter en prison. Et là, il se pose une question très étrange venant de sa bouche. Bien des gens posent la question-là. Est-ce que Jésus est le Messie? Mais là, c'est pas n'importe qui pose la question. C'est le même qui prêchait sur Jésus-Christ. Pose cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Drôle de question, hein? Est-ce que c'est vraiment à toi le Messie? Maintenant, il y a trois explications que je vois à travers l'histoire de l'Église pour essayer de comprendre ce passage-là. Il y en a qui disent que, dans le fond, Jean-Baptiste pose cette question-là parce qu'il a des doutes lui-même. Il doute à savoir si Jésus est vraiment le Messie. Alors, sa question est pour son compte à lui. Il veut te rassurer, d'accord? Certaines personnes pensent ça. D'autres personnes pensent que Jean-Baptiste pose la question pour le compte de ses disciples. Dans le fond, lui, il n'y a pas vraiment de doute, mais c'est vraiment pour ses disciples qu'il pose la question afin que ses disciples soient rassurés. Ça, c'est la position de ma femme. Un soir, cette semaine, je suis en train de réfléchir à ce passage-là, je suis en train de préparer mon sermon, tout ça. On était allé se coucher, puis dans le lit, on était couché, regarde le plafond. Puis là, je lui dis, « Hey, chérie, qu'est-ce que ça dit, toi, cette question-là de Jean-Baptiste? » Mais tout de suite, instantanément, sans consulter de commentaires, sans être influencé par personne, à froid comme ça, tout de suite, elle dit, ben, c'est pour ses disciples. C'est pour ses disciples. Puis, je vous dis, il y a plusieurs théologiens, tout ça, là, qui pensent exactement la même chose. Alors, c'est sa position. Pas la mienne, mais, j'ai dit, là, il était tard de fatiguer. J'ai dit, ouais, c'est pas vraiment le temps de commencer un gros débat théologique à cette heure-là. On va faire de dos. On va arrêter là, tout ça. Bon. Alors, je prie que le Seigneur l'éclaire, mais en tout cas. Alors, écoutez un autre lunch. Faut qu'on ait au restaurant à midi. Troisième explication de ce passage-là, c'est que la question de Jean-Baptiste, dans le fond, c'est pour le compte de Jésus lui-même, qu'il puisse s'afficher et se présenter une fois pour toutes, qu'il dise, que les gens sachent que c'est lui, le Messie. Affiche-toi, Jésus, dis-le à tout le monde. Arrête d'être si discret. Vas-y, je suis le Messie. D'accord? Ce serait intéressant de vous poser la question, vous autres. Où est-ce que vous vous situez dans ça, là? Eh bien, je veux juste préciser une chose avant de tout élaborer ça, de regarder la question de Jean-Baptiste. Le doute de Jean-Baptiste n'est pas de savoir si Jésus est un homme de Dieu en passant. Hein? On le voit, hein? Vous avez vu sa question? Il n'est pas en train de demander, lui, sais-tu, est-ce que c'est un faux docteur, est-ce qu'un faux prophète, puis tout ça. Jean-Baptiste lui pose la question à Jésus lui-même. Alors, la question n'est pas de savoir si c'est un homme de Dieu. Je pense que Jean-Baptiste est convaincu que Jésus est un homme de Dieu, même que c'est un prophète. Et il n'y a pas de doute là, d'accord? La question de Jean-Baptiste, c'est juste de savoir, t'es-tu le Messie ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Il le demande à Jésus, c'est quand même, d'accord? S'il trouvait que Jésus n'était pas vrai, c'était pas un vrai prophète, un faux, il n'aurait pas demandé un conseil à Jésus-Christ. D'accord? On s'entend là-dessus? Donc, la question est strictement au niveau, est-ce que tu es celui dont l'Ancien Testament promettait qu'il allait venir ou non? D'ailleurs, la question qu'il pose est intéressante parce qu'elle fait recours à un titre messianique. Es-tu celui qui doit venir? Celui qui doit venir était une expression rabbinique qui existait déjà dans ce temps-là et qui faisait allusion au Messie. T'es-tu le Messie? Ou est-ce qu'il faut en entendre un autre? Pourquoi poser une telle question alors que dans le passé, Jean-Baptiste disait à tout le monde que Jésus était le Messie? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il change d'opinion puis commence à avoir des doutes? Pourquoi le doute? Voici, d'ailleurs, Jésus dira, juste un peu plus tard, quelques versets plus loin, que ça a été, c'est le plus grand homme qu'il y a eu sur terre. Verset 11. Le plus grand homme qui a jamais existé sur terre, dit verset 11 un peu plus loin, a des doutes. Est-ce que ça fait pas du bien de savoir ça, les amis? Hein? Vous trouvez pas que ça fait du bien? Pourquoi avoir des doutes? Eh bien, on va voir que parfois, lorsque il y a des situations difficiles qui nous arrivent dans notre vie, des moments difficiles, des situations difficiles, des épreuves, tranquillement, c'est regarde ta vie là, puis tu sais, c'est souvent là que tu vas commencer à avoir des doutes. N'oublions pas que Jean est en prison, il était jeté dans la prison parce qu'il a confronté d'adultère l'empereur. Il se retrouve maintenant dans des circonstances très difficiles. La prison où il se trouve, c'est littéralement un trou. Le Flavius Joseph donne une description, l'historien, de cette prison. Il est dans des situations très difficiles. Et si ça continue comme ça, lui, dans la perspective de Jean-Baptiste, il va carrément mourir. Ils vont le tuer. Et on voit d'ailleurs plus tard que c'est ce qui arrive. Quand on commence à avoir des doutes, c'est souvent parce qu'on se retrouve dans des situations difficiles. Alors, regarde ta vie, là, puis tu vas voir, c'est souvent... Quand ça va très, très, très bien... Et là, tu es vraiment dans la bénédiction, puis ça roule, puis tout ça, tu es heureux. C'est un peu moins là qu'on a des doutes. En tout cas, certainement, dans la vie de Jean-Baptiste, c'est ce qui se passe en ce moment. Il est dans un épisode de sa vie la plus difficile qu'il n'a jamais été. C'est la plus grande épreuve de sa vie. Se retrouver là, alors qu'il est sur le bord d'être tué puis de mourir. Tu sais, quand tu commences à avoir des temps difficiles dans ta vie, tu perds quelqu'un que tu aimes. T'as un de tes enfants qui tombe gravement malade. Tu viens de perdre ton emploi alors que tu viens de t'acheter une maison. T'as des dettes, paiements hypothécaires, tout ça. Dans ces moments très difficiles où t'es sous beaucoup de pression, c'est souvent là que tu commences à douter. Tu poses des questions. Tu dis, Seigneur, je suis né à toi, je t'aime. Tu dis que tu m'aimes, mais pourtant tu permets ces choses-là difficiles dans ma vie. Je ne comprends pas. Et on commence à poser des questions sérieusement au Seigneur. On dit, moi je comprends pas ce qui se passe. Et tranquillement, on va sombrer dans le doute. Et tu sais ce qui se passe dans ce temps-là? Le diable est très content, puis le diable lui t'aide. Le diable va venir, puis il va te pousser encore plus loin dans le doute, puis il va te mettre toutes sortes de circonstances. Il va te mettre des gens autour de toi pour t'aider à vraiment sombrer dans le doute. Dans notre incapacité de voir tout le plan de Dieu, on commence à douter du Seigneur, puis on commence à lui demander vraiment ce qu'il fait. Jean est en prison depuis plusieurs mois, il s'attend de mourir. Alors, la question qui lui vient à l'esprit, c'est si Jésus est vraiment le Messie, s'il est celui qui doit ramener Israël dans sa gloire passée, avec puissance et vainqueur, comment se fait-il que Jésus est discret? Voyez-vous? Voyez-vous le raisonnement de Jean-Baptiste? Comment ça se fait qu'il me laisse en prison? Comprends pas. Parce que soyons honnêtes, à ce stade, si Jésus ne crie pas sur les toits qu'il est le Messie. D'ailleurs, lorsqu'une personne commence à reconnaître qu'il est le Messie, puis il dit, hey, toi, t'es le Messie, là. Tu es Jésus à date, en tout cas, il va te faire taire, puis il va dire, écoute, dis-le pas aux autres, hein. Jésus se fait très discret lorsqu'on lui demande carrément la question. Est-ce vraiment le Messie? Il va donner des réponses très évasives. C'est pas clair. Il crie pas sur les toits qu'il est vraiment le Messie. Il est sauveur du monde. Il va parler en parabole. C'est discret. Jean comprend pas. Pourtant, le Messie doit être le roi d'Israël. Jean attendait, pour emprunter l'expression de la littérature apocalyptique du temps. Jean attendait le Messie redoutable. C'est comme ça qu'on parlait du Messie à venir. Le Messie sera redoutable. C'est lui qui va venir venger Dieu. Il apporte le jugement avec lui et tous les rebelles qui ont fait du mal au peuple de Dieu seront jugés une fois pour toutes. Jean-Baptiste attend ce Messie redoutable. Il ne le voit pas. Il voit un Jésus qui est discret, qui se fait miséricordieux, plein de grâce, d'attention et de compassion. Où est le roi d'Israël? Où est celui qui va renverser l'Empire romain sous lequel les Juifs se trouvaient en ce moment, sous ce joug très violent des Romains? Parce qu'après tout, l'Ancien Testament annonce ceci dans Ésaïe 61, et Jean-Baptiste le sait, écoutez bien ce verset, une prophétie du Messie qui vient. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Écoutez bien ceci, « pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Pour publier une année de grâce éternelle et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça, c'est le Messie que Jean-Baptiste attendait. Le Messie qui doit venir nous libérer de prison, surtout les prisonniers de la foi. Et là, Jésus, s'il est le Messie, qu'est-ce que je fais encore en prison? Vois-tu? Qu'est-ce que je fais ici? Voyez-vous, quand on passe par des moments difficiles, c'est là où on commence vraiment à douter. Mais aussi, on ne comprend pas le plan de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec Jean-Baptiste ici. Parfois, quand on passe par des moments difficiles, on ne saisit pas, on n'a pas ce qu'on appelle en anglais le big picture, toute la toile, on n'a pas le vue d'ensemble, on a juste un morceau, et c'est notre morceau de notre vie, tout ça, et on ne comprend pas tout ce que Dieu est en train de faire à travers même les épreuves et comment Dieu est en train de tout préparer, même dans notre vie, pour nous faire grandir. Tout ça, on n'a pas le portrait, tout le portrait de ce qui se passe. Et on s'arrête sur un événement et là, on se pose des questions, on comprend pas, on essaie d'interpréter, mais on ne comprend pas, Dieu m'aime. Et on essaie de se forger, puis souvent, même des fois, ça va arriver qu'on va se laisser influencer par le raisonnement du monde. Hein. Ça rentre dans notre salon avec la télévision, puis tout ça, on est bombardé de toutes sortes de valeurs et d'enseignements, puis tout ça. Et à un moment donné, ça vient à affecter nos convictions, ça un petit peu, ça nous influence. Et à un moment donné, on commence à essayer de raisonner Dieu, puis essayer de percevoir Dieu comme le monde le perçoit. Puis c'est là que c'est vraiment un problème. Et là, on commence à douter. Tout récemment, justement, à Bouffe pour tous, il y avait un monsieur, un Indien, quelqu'un qui vient de l'Inde, qui est venu à Beaufort tous mercredi soir, et il a commencé à jaser avec Jean-Pierre, puis Jean-Pierre est venu me voir, puis il est venu me le présenter, il a commencé à jaser. C'était un monsieur qui a une fondation, un monsieur assez riche, très à l'aise, professeur, consultant, Concordia, tout ça, deux maîtrises, un homme qui a fait beaucoup d'argent au fil des années en investissement immobilier, et lui, il est là, puis il veut juste aider du monde, il veut donner de l'argent. Alors, il vient nous voir, puis il dit, écoutez, il dit, moi, j'aimerais aider du monde. Alors, s'il y a des gens dans votre groupe, qui ont besoin d'argent, dites-moi là, on va faire un chèque. J'ai dit, moi, je sais pas, mais tu trouves ça là. J'ai la première réaction, tu sais. Ah, il y a quelque chose là-dedans, là. C'est quoi cette affaire-là, là, tu sais. Fait que, absolument, ils te connaissent même pas, puis ils veulent te donner de l'argent, puis là, t'es là. Fait que là, il me dit, écoute, comment vous, non, c'est correct, là. C'est un Indien, quelqu'un qui vient de l'Inde, tout ça. Fait qu'il dit, il parle anglais. Il dit, I'd like you to check my internet site. Puis là, on a commencé. J'ai dit, OK, ça marche, je vais aller vérifier le site internet. Donne-moi ton adresse, tout ça, comment c'est écrit. Là, je commence à fouiller, là, tu sais. Puis c'est dans les petites lignes, des fois, t'es là, tu cherches. Puis c'est tout bien beau au début, t'es là, tu cherches. Je dis, il y a quelque chose là-dedans, là, tu sais. Fait que finalement, je tombe sur une portion en arrière, tu sais. sur les croyances de monsieur. Et là, je m'aperçois, là, ça a sonné, il y a un paragraphe qui dit, bien, je donne des conférences à ceux qui en ont besoin pour les grandes questions de la vie et de la mort. J'ai une spiritualité, j'ai découvert quelque chose, etc. Et je me suis aperçu que les grandes religions du monde, comme le bouddhisme, le christianisme et tout ça, c'est tout fait de main d'homme, ça, le christianisme et tout ça. Moi, j'ai vraiment trouvé l'affaire, puis etc. Puis, essentiellement, c'est ça qu'il dit. Fait que si vous voulez venir à notre conférence, appelez-moi, etc. Puis là, j'étais là, ah, c'est ça, donne un chèque, puis tout, puis prends ton téléphone, viens-t'en, puis... Non, je dis, garde, c'est correct. Vois-tu, en d'autres mots, ce qu'il est en train de te dire, c'est que moi, je me suis fabriqué un Dieu à moi-même qui fait mon affaire. Et c'est ça que les gens sont en train de faire. Le monde, c'est ça qu'il fait. Le monde, avez-vous déjà entendu des questions comme ça, un petit peu des questions pièges? Ben là, si Dieu est un Dieu d'amour, comment c'est ça qu'il y a tellement de souffrance dans le monde? Hein? Si Dieu est un Dieu d'amour, comment c'est ça qu'il envoie des gens en enfer? Puis ils te regardent, hein? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, en fond? Ils sont en train de dire, ben c'est pas compliqué. Ce que le monde est en train de nous dire, c'est que moi, je vais te dire le genre de Dieu qu'on veut. Hein? Et si ton Dieu correspond à mes critères, là, je vais croire. Dieu est pas comme ça, là. Dieu est au-dessus de tout ça, puis il dit, non, on commencera pas à changer Dieu. Dieu, il dit, non, voici ce que je suis. Voici ma révélation dans les Écritures saintes. C'est ce que je suis. Tu m'acceptes ou pas. Ça s'arrête là. C'est pas nous qui allons commencer à altérer, puis regarde, non, je pense que Dieu devrait être comme ça. Ou Dieu devrait être demain. Mais le monde fait ça. Et tranquillement, on se laisse emporter par ce raisonnement-là. C'est donc bien vrai, hein? Si Dieu me met dans le fond, moi, j'aurais pas ce genre d'épreuve-là. On commence à raisonner comme ça. On adopte tranquillement et subtilement cette philosophie du monde. On la prend pour nous autres. Alors que Dieu dit dans les Écritures, je t'aime. Tu vas avoir des épreuves dans ta vie, tout ça, mais ça change pas mon amour. Je t'aime. Ça, c'est le Dieu des Écritures. Et Dieu veut qu'on l'accepte tel qu'il est, comme ça. Mais nous, on se laisse influencer par le monde. Puis on commence à avoir des soupçons, commence à avoir des doutes lorsque les choses vont mal. Jean ne comprend pas le plan de Dieu. Il n'a pas toute la perspective. Comment expliquer la discrétion de Jésus? Si Jésus est le Messie annoncé dans l'Ancien Testament, pourquoi ne s'impose-t-il pas à la foi des hommes? Pourquoi n'agit-il pas comme le roi d'Israël? Voilà la question derrière la question de Jean-Baptiste. Comment ça se fait? La question de Jean-Baptiste, dans le fond, c'est, je comprends pas comment ça, t'es tellement discret. T'es le Messie, bon sang, t'es le roi d'Israël. T'agis pas comme un roi, t'agis comme un serviteur, humble, discret. Oh, on est prêt à se rallier à toi, Vois-tu, Jean-Baptiste, se pose la question, es-tu vraiment le Messie? Es-tu vraiment celui qu'on attend? C'est comme ça là que ça va arriver? C'est comme ça que tu réalises les prophéties de l'Ancien Testament? Les Juifs d'aujourd'hui répondent en disant, on va en attendre un autre. Et donc, ils ont réglé la question. Hein? Jean-Baptiste a posé une question très honnête à Jésus-Christ. Puis ils attendaient la réponse. Mais les Juifs, eux autres, d'aujourd'hui, attendent pas à répondre. Ils ont dit, non, on va en attendre un autre. Vous savez, les rabbins ont vraiment un problème, hein, les rabbins, parce que là, il y a un paquet de Juifs dans les synagogues qui posent des questions. Tu sais, à un moment donné, t'as beau cacher les réponses sur le Messie, puis pas vouloir en parler dans les synagogues, mais à un moment donné, il y a des Juifs dans la synagogue qui vont se poser des questions. Alors, les rabbins sont constamment bombardés avec cette question-là, à savoir, ben écoute, le Messie, il me semble que ça faisait partie des enseignements juifs, ça, c'est pas juste les chrétiens qui ont un Messie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, les rabbins, ben là, oui, on attend un Messie, on attend un Messie. Donnez-moi des explications de ça, là, puis... Fait que là, un rabbin de Toronto, du nom de Jacob Emmanuel Rochette, rabbin connu à travers le monde, a décidé d'écrire un livre. Lui, cette année, il a dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Le Messie, moi, je crois ça que le Messie doit venir. Puis, j'ai pas l'affaire à avoir honte de ça. Je crois, on attend un Messie. Puis, d'ailleurs, tous les Juifs devraient et sont obligés de croire dans nos convictions religieuses, les Juifs. Et ça fait partie intégrale de nos principes de foi. Faut croire qu'il y a un Messie qui s'en vient. Alors, ce qu'il a décidé de faire, lui, Jacob, est allé à travers toute l'histoire juive. Fait une grosse recherche. à travers tous les écrits juifs, la littérature juive, le Talmud et tout ça, les Gemara, Mishnah et tout ça. Il est allé dans l'Ancien Testament, la Bible juive, qui est l'Ancien Testament, la Torah, les cinq premiers livres de la Bible et tout ça. Puis il est allé faire une grosse, il maîtrise l'hébreu et tout ça, donc il est allé faire une grosse étude à travers l'histoire juive. Qu'est-ce que les Juifs enseignent? Qu'est-ce qu'on croit sur le Messie? D'accord? Il a décidé de compiler ça dans un livre. On a finalement la conviction, on sait ce que les Juifs attendent d'un Messie, et toutes ces trouvailles se trouvent dans un livre, et c'est celui-ci, qui s'appelle Mashir, le Messie, principe du Messie, et de l'ère messianique, qui s'appelle le Ketz, l'ère messianique, dans la loi et la tradition juive. Voici une compilation de tous les écrits, littérature juive, juste sur le Messie. D'accord? Est-ce que vous voulez savoir ce qui... Oui, j'imagine, hein, c'est ça, oui, OK, bon. Je vais le cacher ici, parce que j'ai l'impression qu'on va me le faire arracher après le service. Alors, regardez bien ceci. Voici, écoutez, pour moi qui le dis, là, c'est écrit dans ça. Tout ce que je vais vous lire, là, c'est écrit là-dedans, d'accord? Voici ce qu'il dit. Chaque Juif doit croire, et en passant, ça s'enseigne dans les synagogues et tout ça, là, ça s'enseigne, ça, c'est les Juifs, ça devient l'enseignement des Juifs maintenant. Et en passant, un beau titre ici, ça c'est Maïmonide, un des très grands rabbins, le Rambam Maïmonide, qui disait ceci, « Je crois avec une foi entière à la venue du Messie. Quoi qu'il tarde, néanmoins, j'attends chaque jour jusqu'à ce qu'il vienne. » Ils attendent le Messie. Chaque Juif doit croire que le Messie, un, va émerger. Deux, va restaurer le royaume de David dans son état original et souverain. Va reconstruire le Beth Amikdash, qui est le temple. Elles ont appelé ça le troisième temple, le Saint-Temple. Et ce temple restera debout pour toujours, selon Ézéchiel. Le rabbin, c'est ce qu'il dit. Tout Juif doit croire que le Messie va rassembler les Juifs à travers le monde pour les ramener en Israël. Hey, c'est un rabbin qui dit ça. Même les 10 tribus du Nord seront de retour. Le Messie va restaurer toutes les lois de la Torah. Dans l'ère messianique, Dieu donnera son esprit, selon Joël. Incroyable, hein? Quand le Messie viendra, les malades seront guéris. Les aveugles auront la vue. Les morts ressusciteront. Quand le Messie viendra, le monde entier servira le Seigneur dans l'unité. Il y aura une paix universelle. Et il consacre un chapitre sur la personnalité et le caractère du Messie. Voici ce qu'il dit. Le Messie et l'ère messianique est l'aboutissement du monde. Le Messie a été préconçu avant toute chose. Le Messie sera humain. Il sera descendant de David. À mesure qu'il va vieillir, il atteindra la perfection spirituelle. L'Esprit de Dieu reposera sur lui. Il sera plus grand que Moïse, plus grand qu'Abraham. Il sera honoré plus que tous les rois avant lui. Comme un bon berger fidèle, il souffrira toutes sortes d'agonies pour s'assurer qu'aucun Juif ne soit perdu. Vous êtes frustrés, là, hein? Ah, il a utilisé ça, puis ah! Il enseignera le peuple juif sur les voies de Dieu. Écoutez ceci, le Messie relèvera la parole de Dieu, donnant de nouvelles explications, révélant donc les mystères de la Torah, au point que tout ce dont nous avons eu jusqu'ici sera vain à comparer de la Torah du Messie. Oh, wow! Quoique le Messie vienne d'abord et avant tout pour Israël, toutes les nations reconnaîtront sa sagesse et se soumettront à lui. Il ne sera pas nécessaire, écoute bien ceci, je pense que c'est le dernier. Écoutez bien ceci. Il ne sera pas nécessaire pour le Messie de se prouver en faisant des œuvres et des signes, mais il le fera. Incroyable, hein? Aïe, 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 incroyable. Le livre se termine. On parle de passer à côté, là, tu sais, c'est comme. Le livre se termine sur une exhortation donnée à tous les Juifs de précipiter la venue du Messie par l'obéissance. Voici ce qu'il dit. Il y a une date déjà de fixer dans le ciel, dans le plan de Dieu, où le Messie doit venir. En d'autres mots, si on fait rien, il va venir à cette date-là. Mais on peut précipiter la venue du Messie par l'obéissance. Pierre dit plus loin, hein? L'apôtre Pierre qui dit plus loin, précipiter la venue du Sauveur. Devrions-nous en attendre un autre que Jésus? Il me semble que Jésus remplit tous les critères de l'attente juive. Amen. Mais Jean-Baptiste dit, est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Jean-Baptiste ne rejette pas le Seigneur Jésus comme l'ont fait les Juifs. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Baptiste? Il va voir le Seigneur. Il demande de l'aide. Dans le doute, qu'est-ce que tu fais? Va au Seigneur. Éloigne-toi pas. C'est lui qui a réponse. Va voir celui qui a réponse. Et c'est ce que Jean-Baptiste fait. C'est tout à son honneur. Il va voir le Seigneur et lui demande de l'aider. Dans le doute, qu'est-ce que tu fais? Tu agis. Tu vas au Seigneur. Et Jésus répond au verset 4. Et j'aimerais ça que vous puissiez voir la réponse de Jésus ici. En passant, la réponse de Jésus est très fascinante. Sur le coup, vous allez dire, amen, oui, amen. Mais attends un peu. Pour Jean-Baptiste, là, mettez-vous dans les souliers de Jean-Baptiste. Vous allez voir que la réponse est différente. Pour nous qui sommes assis ici, on va dire amen. Pour Jean-Baptiste qui est en prison, je ne sais pas si la réponse est tout à fait selon ses attentes, mais voici la réponse de Jésus. Verset 4. Jésus lui répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » D'ailleurs, Luc nous précise que Jésus a continué de faire des miracles et les disciples de Jean-Baptiste étaient là. Ils ont vu de leur propre chef que Jésus a fait des miracles et des guérisons, puis des gens malades qui étaient guéris. Alors, les disciples de Jean ont vu de leurs propres yeux des guérisons et des miracles. D'accord? « Allez dire à Jean ce que vous avez vu puis entendu. Les aveugles voient, et en passant, tout ça est une allusion à Ésaïe, des prophéties de l'Ancien Testament à l'égard de ce que ferait le Messie. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux, écoutez bien le message, parce que dans le fond, c'est ça le message, verset 6, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors, regardez bien la réponse. Des choses, des certains détails que je veux faire soulever ici. Première chose, c'est que Jésus ne donne aucune critique à la question de Jean-Baptiste. Non, mais c'est fort, ça, parce que voici Jean-Baptiste, le messager du Messie, celui qui doit préparer le terrain, pointer du doigt Jésus-Christ, et voilà qu'il commence à douter, et Jésus ne fait aucune critique à Jésus. Vous avez remarqué ça? Le plus grand, d'ailleurs, il fait un éloge au verset 11, il va dire, c'est le plus grand homme qui a jamais existé. Et ne jamais il fait une critique à Jean-Baptiste. Deuxièmement, deuxième chose que je trouve fascinant, deuxième détail, la réponse de Jésus pourrait être, en quelque sorte, décevante pour Jean-Baptiste. Soyons honnêtes, c'est pas tout à fait la réponse que Jean s'attendait. Êtes-vous d'accord avec ça? D'ailleurs, je vais même aller plus loin, je vais même vous dire, Jean-Baptiste connaissait déjà les œuvres de Christ. Saviez-vous ça que Jean-Baptiste, il y avait des rapports des disciples de Jean-Baptiste qui allaient constamment aller voir Jean-Baptiste et gardaient Jean-Baptiste au courant de tout ce que Jésus faisait. D'ailleurs, laissez-moi vous lire un passage. Je vais même aller plus loin et dire que Jean-Baptiste savait même que Jésus ressuscitait des morts. Dans Luc 7, nous lisons, « Tous furent saisis de crainte. Jésus venait de ressusciter le fils unique d'une veuve. » Et la réaction de la foule, tous furent saisis de crainte, ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète est parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Verset 18, « Jean-Baptiste fut informé de toutes ces choses par ses disciples. » après avoir été conscient de tous les miracles, les guérisons, les paralysés qui se lèvent et commencent à marcher, les morts qui ressuscitent, après tous ces miracles et ces œuvres, Jean a eu des doutes. Donc, Jean-Baptiste savait et connaissait déjà les œuvres de Christ. Et pourtant, Jésus dit, bien, allez dire à Jean ce qu'il sait déjà. D'accord? C'est ça ici, là. Jésus renvoie Jean-Baptiste et ses disciples à trois choses. Premièrement, il dit, regarde mes œuvres. Les œuvres, il dit, donne trois raisons de croire en lui, dans le fond, essentiellement, puis il dit, mes œuvres sont les œuvres qui sont annoncées dans l'Ancien Testament que le Messie devrait faire. Regarde mes œuvres. Deuxièmement, il dit, je prêche le message que le Messie doit prêcher. Je prêche aux pauvres. Et c'est ça qu'il est en train de dire. D'accord? Et troisièmement, Jésus promet le bonheur à ceux qui placent sa foi en lui, qui ne se laissent pas dérouter par rien, par les circonstances difficiles, puis il dit, reste avec moi, Jean-Baptiste. Reste avec moi. Tu ne regretteras pas. À la fin, tu vas crier Alléluia. Tu vas être heureux. Reste avec moi. Les temps sont durs. Mais honnêtement, ce n'était pas la réponse que Jean attendait. On est d'accord avec ça? Est-ce que ça vous arrive, ça, des fois, d'apporter des requêtes au Seigneur, puis Dieu ne répond pas, mais comme pas du tout, comme tu t'en attendais? Hey, Jean-Baptiste apporte une requête au Seigneur. Fais une prière. Éclaire-moi, guide-moi. Je te demande de m'éclairer. J'ai besoin d'éclaircissement. Et Jésus ne répond pas tout à fait comme Jean le souhaitait. Et ça arrive des fois. Parce que n'oublions pas les enjeux. Si Jésus ne se manifeste pas, probablement que Jean-Baptiste sait dans son esprit, il sait qu'il va mourir. Les enjeux sont grands ici. C'est une question de vie ou de mort. Et des fois, on apporte des requêtes et c'est une question de vie ou de mort. On passe par une situation très délicate, très difficile, où notre femme ou notre époux passe par un temps de cancer et là, les médecins ne se font pas encourageant parce que ça a tout l'air comme si le cancer était tellement avancé que probablement il va mourir. Et lorsque tu vas prier le Seigneur dans ces moments tellement délicats, tellement difficiles de la vie, où c'est une question de vie ou de mort, là, tu pries, puis tu demandes à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Et soyons honnêtes, des fois, la personne va décéder. Et Dieu ne répond pas comme tu t'attendais. Faut être honnête ici. On n'est pas en train de parler d'un évangile bonbon, là, que tout est beau, tout est rose, viens au Seigneur, tu n'auras jamais de problème. Ce n'est pas vrai. Et c'est pas le genre de foi que Jésus veut qu'on ait. Jésus veut qu'on ait la foi que même lorsqu'il y a des occasions où ça pourrait te faire chuter et délaisser le Seigneur et t'éloigner du Seigneur, que tu tiennes bon, tu restes là, que tu restes fidèle. Et Jésus promet en retour ceci. Voici ce qu'il dit. Il dit, si tu tiens bon, parce que c'est une béatitude dans le fond. Il dit, heureux. C'est une promesse que Jésus fait. Dieu te fait cette promesse que même si tu passes par des temps difficiles et tu as le goût de tout lâcher, tiens bon, persévère, parce que heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Vois-tu? Je te promets une chose, si tu restes avec moi, dit Jésus, si tu es persévérant, tu continues, malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie et les pires injustices que tu peux subir. Malgré tout ça, malgré que tu puisses même être jeté au cachot pour ta foi, moi, ma promesse, une affaire. À un moment donné, ça va être le jour de la paye. Puis à un moment donné, je vais te bénir, mon ami, comme tu t'attendrais pas pantoute. Tu vas tellement être heureux ce jour-là d'avoir persévéré. Voilà le message que Jésus nous livre à chacun d'entre nous. Si tu as des doutes, là, parce que tu passes par des moments difficiles. Va au Seigneur. Fais comme Jean-Baptiste, tu vas au Seigneur. Colle-toi. Éloigne-toi pas. Colle-toi à lui. Tu as des choses que tu comprends pas dans ta vie. Il y a le plan de Dieu qui est pas tout à fait clair. Comme Jean-Baptiste qui passait ses temps de doute, comprenait pas le plan de Dieu à ce stade-là dans sa vie. Ces passages dans l'Ancien Testament qui expliquent que Jésus doit passer à travers un temps de souffrance, doit mourir pour nos péchés avant de connaître la gloire. Je pense à Ésaïe 11, où une prophétie à l'endroit du Messie, vraiment intéressant. On a vu ça dans notre série dimanche soir sur les prophéties de la première venue de Jésus-Christ. C'est tellement intéressant, Ésaïe 11, où le Messie est associé non pas à David, mais à son père, Jesse. Pourquoi? Jesse était pauvre. Et ce que l'auteur est en train de nous dire, sous l'inspiration du Seigneur, c'est qu'il est en train de nous dire, avant de connaître la gloire, le Messie va connaître la pauvreté comme David l'a connue lorsqu'il était chez son père. Et on ne parle jamais de David dans le texte. On parle juste de Jesse. Isaïe, le père de David. Et tout comme David, Jésus va connaître une époque difficile de pauvreté avant de connaître la gloire. On pense à d'autres passages, le classique Ésaïe 53. Le passage magnifique, cette belle promesse dans Ésaïe 53 que le Messie doit souffrir. Vous savez que les Juifs ne savent pas quoi faire avec ce passage-là? Savez-vous que dans les synagogues, aujourd'hui, on passe par-dessus le chapitre 53? On lit 52, on va lire jusqu'à 52, on laisse tomber 53, puis on continue la lecture Ésaïe 54. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils sont embarrassés avec Ésaïe 53 qui parle de souffrance. Pourtant, jusqu'au 12e siècle, tous les rabbins étaient unanimes de dire que ça faisait référence au Messie et qu'il devait souffrir. Alors, on a ces prophéties de l'Ancien Testament. Alors, si tu te trouves là dans ta vie où tu te trouves à une époque difficile, tu ne comprends pas le plan de Dieu, tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça, un Dieu qui t'aime. Jésus dit le même message. Attends, persévère. Persévère, je vais te bénir. Je vais te bénir, je te promets, je te fais une promesse. Tiens bon, le jour s'en vient où je vais te bénir. D'accord? On persévère, frères et sœurs. On tient bon parce que le jour de paix s'en vient. Ça vaut la peine. Prions, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous voulons te remercier de ce qu'il y a des gens comme Jean-Baptiste qui était un homme de Dieu tout à fait. J'arrive même pas à la cheville, Seigneur. Et cet homme qui a douté, qui a sombré dans le doute. On voit, Seigneur, que le doute, ça va arriver dans nos vies. D'ailleurs, on voit souvent le doute chez les croyants dans le Nouveau Testament, rarement chez les inconvertis. Les inconvertis rejettent carrément Jésus-Christ. C'est les chrétiens qui luttent avec ça, surtout. On lutte, Seigneur, parce qu'on veut croire. Mais parfois, nous sommes tentés par les événements de la vie, par toutes sortes de choses qui se passent dans notre vie. Mais, Seigneur, on refuse. On refuse, Seigneur, ce matin. On prend cet engagement-là. On refuse, Seigneur, de se laisser abattre et éloigner de toi par des circonstances difficiles de la vie. On prend l'engagement ce matin par la foi de nous tourner vers toi lorsqu'on n'a pas de réponse. Et lorsqu'on n'a pas les réponses qu'on souhaiterait, Seigneur, on veut rester collé à toi parce qu'on sait qu'un jour tu vas bénir chacun de tes enfants. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Le jour s'en vient. Tu reviens bientôt et cette fois-ci, tu vas venir dans la gloire, Seigneur. Tu seras le Messie redoutable qui viendra ici imposer ton règne sur la face de la terre. Et tout le monde verra en celui en qui nous avons mis notre foi. Oh, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que ce jour s'en vient. Garde-nous près de toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.